c'est pas le bon écran.
Ça fonctionne. C'était le câble qui n'était pas bon en fait. Bon, et ben voilà, parfait.
On était.
Parfait, merci beaucoup. Bon, 7h32, on est presque à l'heure. Merci à tous d'avoir aidé à préparer tout cela. Pendant que Jacques se prépare, juste un petit récapitulatif d'où on en est dans le cycle pour ceux qui l'ont suivi depuis le début. Donc ce cycle, on essaye d'approfondir les fondements de ce que sont les entreprises libérées, la réinvention des entreprises, de la loue, etc. En gros, pour vous dire un peu comment on fonctionne à Philoma, comment je fonctionne aussi fondamentalement, c'est bon, j'ai des choses qui m'intéressent, que j'ai envie d'approfondir, et en fait, je construis un cycle autour de cela. Et effectivement, il y a à peu près un an et demi, un de mes amis, Géric Beckart, m'a dit, bon, c'est bien tout ce que tu fais, les entreprises libérées, etc., mais c'est quoi le vrai fondement? Qu'est-ce qui justifie que cette approche de la gestion des entreprises soit meilleure qu'une autre? C'est ça que tu dois approfondir. Donc, de là est né ce cycle. Et donc, je l'ai composé de la façon suivante. D'abord, effectivement, une introduction avec Alexandre Gérard, que vous avez peut-être entendu, qu'il a mis en œuvre dans sa boîte. Ça, c'était intéressant pour avoir un panorama de la part d'un praticien. Et puis, on a commencé avec l'élément humain de Will Schutz, où là, on a essayé de voir qu'effectivement, il y avait des liens assez forts entre la théorie de l'élément humain, des facteurs qu'il considérait Will Schutz comme étant essentiels, les besoins essentiels des êtres humains pour pouvoir bien fonctionner dans une organisation, de manière générale. Et si vous vous rappelez, il y avait trois facteurs essentiels, trois besoins essentiels, qui sont le besoin d'inclusion, le besoin de contrôle de sa vie, de son environnement, etc. Et troisièmement, le besoin, disons, de développement, hein, de développement personnel. Trois leviers. On l'a fait, je dirais, sur base de toute l'approche de Will Schutz, qui est un praticien, un psychologue, qui a travaillé pendant de nombreuses décennies aux États-Unis là-dessus. C'était, je pense, intéressant. Ce qu'on va voir ici, avec Jacques, va, me semble-t-il, un pas plus loin, parce que Jacques est un scientifique pur, j'ai appris à le connaître ces derniers jours, c'est vraiment le mec quantitatif, il fait des analyses, il a le petit questionnaire que vous avez peut-être, auquel vous avez répondu, il l'a fait passer à 5 millions de personnes déjà maintenant, donc il commence à vraiment avoir, je vais dire, du matériel pour pouvoir en retirer des chiffres, des choses quantitatives qu'il va nous présenter. Et ce qui est intéressant, et c'est pas non plus une surprise, c'est qu'en fait les besoins innés universels que Jacques met en avant au travers de son analyse quantitative, scientifique, est basé sur la théorie de l'autodétermination de Desi et Ryan. On va en parler tout de suite, ça c'est mon téléphone, je suis désolé, il faudrait l'éteindre comme tout le monde d'ailleurs, mais j'ai oublié de le faire. C'est... Alors, oui, attendez, c'est quelqu'un qui essaye de rentrer. Mmh. Je vais la rappeler tout de suite. Mais, donc, vraiment, ces trois besoins innés qu'il va détailler, il y en a plusieurs, mais ceux-là sont importants, je vais vous expliquer pourquoi. Ben, ils rejoignent évidemment ceux de Will Schutz, qui sont, dans le cas de Jacques, qui sont effectivement l'inclusion, qui sont l'autonomie et l'affiliation. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on fait le lien alors avec les entreprises libérées et la réinvention des entreprises, c'est que les principes que mettent en avant Gates et Laloux, eh bien, vous allez le voir, recoupent évidemment cela. Et c'est ce qui permet, à mon avis, de penser que l'approche de la réinvention de la libération des entreprises, elle s'ancre véritablement dans ces besoins innés, universels des êtres humains. Donc, ce n'est pas une théorie, une nouvelle mode. Ça fait vraiment plus le lien, selon moi, que d'autres théories de la gestion des équipes ou des organisations que d'autres. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire d'entrée. Et voilà, Jacques, on ne te présente plus. Entre-temps, tout le monde sait que tu es professeur à l'UQAM, donc l'Université du Québec Montréal. Et voilà, je te laisse la parole.
Excellent. Donc, un gros merci de m'avoir ici en Belgique. Je m'excuse à l'avance de mon accent. Donc, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, levez la main et faites-moi traduire. Donc, c'est ça, je suis prof à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. On est la plus grosse école de gestion de la francophonie. On a 17 000 étudiants. On est à Montréal, comme vous aurez deviné avec mon accent. Donc, pour la prochaine heure, on va parler d'être motivé par le travail, mais par quoi au juste? Ce que je vais vous présenter, c'est basé sur la théorie de l'autodétermination de D.C. Ryan. Ça a commencé dans les années 75 environ. Ça a vraiment pris son envol en milieu organisationnel en 2005 avec un article que Marilyn Gagné a publié dans Journal of Organizational Behavior. C'était tout le temps vu comme une théorie plus pour le sport ou les pratiques parentales ou les saines habitudes de vie, mais ça peut s'appliquer au travail. Ce que la théorie de l'autodétermination fait, c'est qu'elle étudie les raisons pour lesquelles les gens font des activités. Moi, je me spécialise dans le domaine du travail, mais on a aussi fait des interventions en sport. Si on a le temps, je pourrais vous en montrer une. Donc, ce que je veux vous faire, c'est vous vulgariser la science. Donc, comme Laurent l'a dit, je suis un scientifique pur et dur, mais ce n'est pas parce que je suis un scientifique que je vais être ennuyant, détrompez-vous. À tout le moins, j'essaie de ne pas l'être. Dans la prochaine diapositive, il y a 40 ans de recherche en une diapo. Okay. Si on résume 40 ans de recherche sur les motivations, ça ressemble à ça. Là, vous voyez les nombreuses cases, vous allez dire ça va être l'horreur pour la prochaine heure. Ça ne sera pas le cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre par la main et je vais vous accompagner au travers de chacune de ces petites cases-là. Donc là, c'est une synthèse de toutes les recherches. Et on va commencer par la troisième colonne qui sont les motivations qui peuvent vous animer. Le questionnaire que je vous ai acheminé, qu'on vous a fait passer, mesure ces différents types de motivations-là, le plaisir, le sens, l'orgueil, les récompenses. Je vais vous donner les noms scientifiques. On va parler un petit peu des résultats du questionnaire, mais celles et ceux qui seront là demain, on va plus les décortiquer dès demain. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première colonne. Je vais vous poser des petites questions à main levée. Qui ici dans la salle a des passe-temps ou des loisirs? Bravo, vous êtes des personnes saines et équilibrées. Ce serait quoi des loisirs ou des passe-temps que vous pouvez partager publiquement?
Yoga.
Le yoga, parfait. D'autres exemples?
J'aime bien le vélo.
Hein?
Parler avec les arbres.
Parler avec les arbres, OK. Yoga, quoi d'autre?
Tennis.
Tennis, OK. Combien doit-on te payer de l'heure pour que tu joues au tennis? C'est quoi le tarif que tu charges?
3 000 euros.
OK. Pour le yoga?
C'est moi qui le paye pour.
Pourquoi vous faites quelque chose qui est économiquement non rentable?
Alors, ça vous donne du plaisir, de la santé et des relations.
Donc, voilà. Ça, c'est le premier type de motivation. La motivation intrinsèque. Souvent, on connaît les deux bouts, intrinsèque et extrinsèque. On va voir que ce sont les déclinaisons entre qui sont importantes. La motivation intrinsèque, je vous donne l'exemple de l'inventeur Thomas Edison qui a dit « I never did a day's work in my life. It was all fun. » Moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie. À tous les jours, j'avais du plaisir. La première chose que mes étudiants à l'UQAM font, c'est ça. Là, ils me pointent leur montre. Là, je suis là. Pourquoi qu'ils me pointent leur montre? Mm-hmm. Ça fait 2 heures que je parle. Il faut qu'ils aillent aux toilettes. Il faut qu'ils aillent mettre de l'argent dans le parcomètre. Quand j'enseigne, moi, je ne vois pas le temps passer. Les journées passent très rapidement. C'est le premier type de motivation. Êtes-vous capable d'identifier des tâches dans vos différentes fonctions qui vous procurent ce plaisir-là? Ça serait quoi? Au travail? Donc, quand vous êtes en réunion d'équipe, vous voyez ça dans votre agenda, vous savez que le temps va passer rapidement. Ça, c'est le premier type de motivation, mais il ne faut pas croire les livres de gestion qui vous disent que vous pouvez avoir du plaisir tout le temps. Ce n'est pas vrai. L'origine du mot travail, ça vient du latin crepalium, qui veut dire instrument de torture. Donc, plaisir et travail, c'est deux notions qui ne semblent pas aller ensemble, mais on peut l'avoir dans différentes proportions. Le scénario idéal, c'est d'avoir un emploi où on n'a pas l'impression de travailler. Mais c'est là que le deuxième type de motivation est très important. Est-ce qu'il y en a ici qui font des dons de sang? Des dons de sang? OK. Est-ce que je le dis bien? Oui. Son.
Son.
C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Quand vous faites un don de son, est-ce que vous dites à tout le monde, regardez-moi comment je suis un bon citoyen et je fais ce don-là? Pourquoi vous le faites?
Moi?
Oui.
Parce que je suis consciente que c'est bon de le faire, je suis au négatif, donc du coup, je sais que le sang est universel.
Et est-ce que vous le faites pour le petit muffin et le jus qu'on vous donne par après?
Non.
Est-ce qu'on vous rémunère pour faire ça? Entre une journée au spa à recevoir des massages et des traitements et aller faire un don, qu'est-ce qui est le plus agréable entre les deux?
Le premier, mais en attendant, je sais que c'est plus utile.
Voilà. Donc ça, c'est le deuxième type de motivation qu'on va appeler la motivation, merci Laurent, la motivation identifiée. La motivation identifiée, c'est d'accomplir des tâches qui peuvent être agréables, mais souvent, elles ne le sont pas. Mais on sait que c'est utile. On sait que ça contribue à quelque chose de plus large que soi. Qui ici se brosse les dents le soir et c'est le plus beau moment de sa journée? Pourtant, est-ce que vous vous brossez les dents? Vous savez que c'est utile pour votre hygiène, etc. Donc, tout ce qui est fait de l'ordre, quasiment de l'automatisme, qui est intégré, vous savez que ça contribue. Ce deuxième type de motivation-là va être très important. En langage commun, on va dire que ça donne du sens, c'est significatif pour moi, j'ai trouvé ma vocation. Donc, on met beaucoup d'énergie. Ça peut être agréable ou pas, mais ça contribue à quelque chose de plus large que soi. Est-ce que vous connaissez la coopérative financière Desjardins ou non? C'est une grande coopérative financière au Québec. Au Québec, on est 8 millions et 4 millions de personnes sont membres de Desjardins. C'est 77 000 employés. Le signe de Desjardins, on ne le voit pas très bien, c'est une petite abeille. C'est un mouvement financier coopératif et leur signe, c'est une abeille. Seule, une petite abeille, c'est très fragile, on peut la tuer facilement, mais en groupe, ça peut contribuer à faire quelque chose de plus large et se maintenir. La personne que vous voyez sur le pamphlet publicitaire, c'est mon père, Yvan. Mon père, toute sa vie, tous les jours de sa vie, il se levait pour aller aider le mouvement coopératif. Dites-tu ça, moi, je ne peux rien faire. On est 70 000 ensemble à pousser dans la même direction. Moi, à l'université, à chaque mois, on a une réunion départementale. C'est la journée du mois que je déteste le plus. Tu mets plein de personnes avec d'immenses égos dans la même salle, ça fait tout le temps des flamèches, c'est horrible. C'est d'un ennui mortel, mais je le sais que c'est important d'y aller parce que c'est là qu'on embauche les gens, qu'on règle nos problèmes, etc. Donc, ce deuxième type de motivation-là est très important parce que lorsque ça arrête d'être agréable, plaisant, stimulant, on doit avoir une raison qui est plus forte pour se maintenir dans la durée. Le troisième type de motivation, est-ce qu'il y en a ici qui s'entraînent régulièrement, religieusement? Oui, OK. Et qu'est-ce qui arrive lorsque tu as prévu d'aller t'entraîner puis tu sautes la fois, là, tu n'y vas pas t'entraîner? Comment tu te sens intérieurement?
Ça m'embête. Ça m'embête, oui.
Double clic sur ça m'embête. C'est pas les émotions qui sont...
Il y a quelque chose qui n'est pas nourri en nous.
Ouais.
Il y a un manque, c'est quelque chose de pas nourri. Ouais. Est-ce qu'il y en a ici qui tentent de suivre un régime, qui comptent leurs calories? Là, vous faites un petit errement où vous prenez un muffin à 400 calories. Comment vous vous sentez intérieurement? Pas très bien, lourd, etc. Donc ça, c'est le troisième type de motivation. Tout ce qui est relatif à l'orgueil, la réputation, vouloir se prouver ou encore éviter de vouloir avoir l'air fou, c'est toutes des punitions et des récompenses que vous vivez entre les deux oreilles. Donc, vouloir se prouver à soi-même ou encore vouloir s'assurer que vous n'allez pas moins faire que la dernière fois, c'est relatif à la motivation introjectée, qui peut être soit approche ou évitement. On veut se prouver ou encore éviter d'avoir l'air fou. Je vais vous donner un exemple. Moi, avant d'avoir des bourses, pour payer les études, je vendais des skis dans un magasin de sport. Il fallait pointer notre heure d'arrivée et notre heure de départ avec une petite imprimante. Devant nos yeux, nous avions le classement des vendeurs du meilleur au moins bon. Que vous soyez temps plein ou temps partiel, vous étiez listé. J'avais un collègue, David, qui me disait « Comment tu fais pour vivre avec toi-même, Jacques? T'es 21e. Comment peux-tu dormir la nuit? T'es donc nul, t'es pas bon. » Je vais regarder c'est qui le numéro un. Ah, c'est encore moi. Donc, ça, c'est Dave, je l'ai mis ici. Dave s'aimait beaucoup. Toutes les personnes qui sont très orgueilleuses, compétitives, qui veulent se prouver, et dans leur discours, c'est quelque chose qui est très saillant, c'est ce troisième type de motivation-là. De l'extérieur, on ne peut pas le savoir, mais à l'intérieur, vous le savez, vous avez l'envie soit d'écraser les autres ou encore de ne pas perdre votre réputation. Finalement, à l'autre bout du continuum d'autodétermination, vous avez la motivation extrinsèque qui est relative aux récompenses. On va souvent penser à l'argent. Donc là, je vous ai mis toutes les couleurs des billets d'argent canadien. Elles peuvent être matérielles, donc le salaire, les bonus, les avantages sociaux, etc. Mais ça peut aussi être social. Un ou une collègue qui arrive dans votre bureau et qui vous dit « Le rapport que je te demandais pour demain, finalement, ça va être pour aujourd'hui. » C'est extérieur à vous, mais vous internalisez cette pression-là qui vous pousse à agir. Et à la fois dans social et matériel, vous avez soit l'approche, vous en voulez plus, vous voulez plus d'approbation des autres, vous voulez plus de récompenses financières, ou encore l'évitement, vous voulez éviter que votre patron vous tombe sur la tomate, ou encore que vos collègues vous reprochent quelque chose, ou vous voulez éviter de perdre votre bonus, ou encore éviter de perdre votre emploi. Ça, c'est la motivation extrinsèque. Finalement, vous avez l'absence de motivation, donc L'apostrophe à motivation, la motivation ou encore la démotivation. C'est lorsque l'on fait des efforts, on met des énergies, on veut s'investir, mais c'est comme si notre boussole intérieure était perdue. On met des efforts, mais on ne sait pas dans quelle finalité c'est poursuivi ou dans quelle direction ça va. Donc là, si on résume, on a plaisir, sens, orgueil, récompense et démotivation. Il y a une raison pour laquelle je vous les ai présentés dans cet ordre-là précisément. La recherche va montrer, peu importe le domaine, entre autres au travail, que plus vous avez des motivations intrinsèques et identifiées, plus vous avez de plaisir au quotidien, plus l'ensemble des tâches que vous réalisez contribuent à une mission qui est plus large que vous, même si c'est très difficile, ça va augmenter votre niveau de vitalité subjective aussi. C'est un peu la variable qui est la meilleure antithèse de l'épuisement professionnel, la vitalité. Ça va aussi être lié à plus de concentration et de performance. Lorsque vous agissez principalement par plaisir ou pour une cause qui est plus large que vous, il y a un lien continu entre vos ressources psychologiques et la tâche à faire. Vous savez pourquoi vous y allez. Ça va être lié aussi à beaucoup plus de performance. Intra-rôle, ça, c'est faire votre travail, mais la performance extra-rôle, c'est de dépasser les attentes qu'on a envers vous. Donc, si vous voulez que vos employés, vos subalternes en fassent plus, ce sont les deux types de motivation que l'on doit stimuler. C'est aussi relié à des comportements adaptatifs. Donc, s'il y a des conflits interpersonnels, les gens vont activement s'impliquer pour les régler. Ça va être important pour eux, plutôt que de balayer ça sous le tapis. Donc, le large faisceau de conséquences positives que ces deux types de motivation-là prédisent, c'est relativement bien documenté. Là où ça devient intéressant, c'est de constater que les motivations introjectées et extrinsèques, c'est comme si on appuyait sur l'accélérateur et le frein en même temps. Les motivations orgueil et récompense, introjectées et extrinsèques, vont être reliés à plus de burn-out. Donc, les trois catégories de symptômes du burn-out, c'est l'épuisement émotionnel, d'être fatigué, de se sentir au bout du rouleau. Vous allez avoir du cynisme ou de la dépersonnalisation. Vous vous détachez de votre rôle au travail parce que c'est trop difficile à vivre. Et finalement, vous avez une baisse de performance. Vous mettez beaucoup d'efforts, mais ça ne mène pas au résultat auquel vous vous attendez. Ça va aussi être lié à plus de distractions. Lorsqu'on est principalement au travail pour le salaire, c'est plus facile de laisser notre esprit s'évader. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà calculé leur salaire à la seconde? OK, vous l'avez déjà calculé. Est-ce que c'est motivant de savoir combien de centimes vous faites à chaque seconde?
Parfois.
Parfois, ça va aider. Est-ce que c'est la chose la plus motivante dans toute votre existence? OK. Il y a des enquêtes qui font calculer aux gens combien ils font par seconde. Et ensuite, on leur demande de faire une tâche toute simple qui est de classer des papiers. Ensuite, on demande aux participants, prenez les papiers, l'expérimentation est finie, on vous remercie. Ils sortent de la salle avec la pile de papiers et devant eux, il y a soit un bac de recyclage ou une poubelle. Donc, c'est le même effort de le mettre dans le bac de recyclage que dans la poubelle. Il y a deux groupes différents. Le premier groupe, on leur fait calculer combien ils gagnent de la seconde. L'autre, on leur fait juste classer les papiers. Il y a une différence statistiquement significative entre le groupe qu'on fait calculer le salaire à la seconde, qui vont plus souvent mettre les papiers dans les poubelles. Pourquoi? Parce qu'on a injecté dans leur tête une mauvaise raison d'exister, ce qui les amène à être frustrés et à compenser en jetant les papiers dans les poubelles. Il y a des enquêtes qui vont mettre des posters, des photos sur les murs avec des billets de banque. Inconsciemment, ça va activer l'argent. les gens sont moins coopératifs dans la tâche. Est-ce que vous avez en Europe la marque Le Géant Vert pour les petits pois? Et, okay. Dans l'usine du Midwest, où les petits grains de maïs avancent, il y a des employés qui se sont mis à enlever les insectes. Donc, c'est un comportement souhaité. Vous ne voulez pas de sauterelles dans votre boîte de maïs. Ils ont décidé que c'est un comportement souhaité. On veut l'augmenter. On va rémunérer ce comportement-là. D'après vous, qu'est-ce que les employés ont fait?
Ils ont arrêté de faire.
Ils sont allés dans des pet shops acheter des insectes pour ensuite les insérer dans les lignes de production. Il y a ce qui s'appelle aussi l'effet cobra. Quand les Britanniques étaient en Inde, il y avait des cobras venimeux assez dangereux, puis ils ont décidé de payer les gens. Ils coupaient les têtes de cobras, et à chaque tête de cobra, les autorités britanniques payaient les citoyens. D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait, les citoyens? Ils ont fait des colonies de cobras complètes pour n'avoir plus. Puis les coupaient les têtes pour aller chercher la récompense. Ensuite, les Britanniques se sont dit, ça n'a aucun sens, là. Les gens sont en train de faire plus de cobras. On enlève les récompenses. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont tous laissé aller les cobras et il y a eu des centaines de morts. Je vous donne un autre exemple. Dans une municipalité du Brésil, on voulait augmenter le taux d'adhésion au transport en commun. Les deux plaintes les plus souvent formulées, c'était les chauffeurs sont bêtes et méchants et c'est jamais à l'heure. On regarde l'horaire, mais l'autobus n'est pas à l'heure prévue. Donc, on a rémunéré les chauffeurs au nombre de passagers qu'ils avaient dans l'autobus. Donc, ça serait un indicateur proximal de leur qualité de service. Et ensuite, on les rémunérait plus pour arriver à l'heure. D'après vous, qu'est-ce que les chauffeurs ont fait?
Ils ont invité leurs copains.
Ils appelaient leurs amis, leurs copains, leur famille pour qu'il y ait plus de gens dans l'autobus. Ils changeaient le trajet d'autobus pour aller dans des endroits comme des écoles secondaires, des centres d'achat pour aller chercher beaucoup de monde. Et pour arriver à l'heure, ils conduisaient très vite. Donc, pour avoir le plus de gens possible, ils se sont rendus compte que c'était quand même assez long de payer l'autobus. Donc, ils disaient aux gens, rentrez, payez pas. Puis, on voulait que les gens rentrent rapidement et sortent rapidement. Donc, ils ont laissé les portes ouvertes. Il y a des clients qui sont morts, ils se sont fait rouler dessus par un autobus avec les portes ouvertes parce qu'on rémunérait les chauffeurs d'autobus. La compagnie a décidé de l'enlever. Quelle a été la réaction des chauffeurs? Enlevez-nous pas ces récompenses-là, on les mérite. Je veux vous montrer par ces multiples exemples-là que la motivation extrinsèque, si on met trop l'accent là-dessus, ça va pervertir le comportement humain. On est présentement aux Olympiques, là, le Canada, dans les médias, vous voyez constamment, on est le troisième au tableau des médailles, troisième, est-ce qu'on va battre les Allemands, les Néerlandais, blablabla. Ça, c'est un exemple de mettre l'accent sur les récompenses. Il y a des enquêtes en milieu sportif où on va demander à des joueurs de football si l'arbitre ne te voit pas et que tu as la chance de blesser un adversaire, ce qui va te faire gagner, est-ce que tu le fais? Les gens qui sont là et ils veulent gagner à tout prix, qu'est-ce qu'ils disent d'après vous? L'arbitre ne me voit pas, j'y casse la jambe ou j'y arrache la tête. Quelqu'un qui est principalement motivé par plaisir ou son sport est important pour lui, on lui pose la même question. Ben non, ça va à l'encontre des règles, c'est pas un bon message qu'on envoie aux autres sportifs. Donc, tous ceux qui consomment des substances, que ce soit en contexte sportif ou de travail, au travail, on va mesurer par exemple café, nicotine, médicaments, etc. Plus ces deux types de motivation-là augmentent, plus vous allez avoir tendance à consommer de substances, parce que c'est des motifs qu'on va appeler compensatoires. Donc, ce que vous voulez à tout prix pour vous, pour vos collaborateurs, c'est d'augmenter autant que faire se peut le plaisir et le sens que vous avez au quotidien. L'idéal, c'est d'avoir du fun, on ne verra pas le temps passer, c'est agréable, et que l'on sache à tous les jours que notre travail fait une différence sur la planète. Ce qui est de moins bonne qualité ou ce qui va parfois amener des conséquences négatives, vont être la présence démesurée des motivations orgueil et récompense. Donc, vous avez les quatre types de motivation, puis au bas, vous avez la démotivation. Donc là, on voit la moitié du graphique que je vous ai présenté au départ. Si vous voulez augmenter des conséquences émotionnelles, physiques et cognitives très positives, vous devez augmenter plaisir et sens. Si vous voulez diminuer les éléments négatifs au niveau émotif, cognitif et physique, vous devez réduire autant que faire se peut les motivations introjectées et extrinsèques. Comment on fait ça? Vous connaissez la pyramide de Maslow? Prenez-la dans votre tête et oubliez-la. Okay? C'est une belle approximation, voilà, 70 ans. Il y a d'autres évidences empiriques qui sont sorties plus récemment. Il n'y avait pas entièrement tort, mais mettons que ça s'est raffiné avec le temps. Il y a trois besoins psychologiques qui sont innés et universels à satisfaire. Donc, innés, vous les avez de votre naissance jusqu'à votre mort, du premier jour en emploi jusqu'à votre retraite. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des enfants d'environ 5 ou 6 ans dans leur entourage? Est-ce qu'ils ont appris à lacer leurs chaussures?
Oui.
Et quelle est la face qu'un enfant de 5 ans fait la première fois qu'il est capable d'attacher sa chaussure?
Hyper content.
Hyper content. Okay? Moi, ma fille, elle a 6 ans. L'an passé, elle arrive de l'école et elle dit « Papa, regarde, elle attache sa chaussure. » Elle dit « Bouge pas. » Elle la détache et elle la rattache. Elle dit « Je suis encore capable. » Qui ici, ce matin, a lassé ses chaussures et s'est dit « Yes, j'ai encore réussi aujourd'hui. » Ce qui ne veut pas dire... Je vous montre cet exemple-là parce qu'à 5-6 ans, c'est d'apprendre à lasser ses chaussures. C'est un gros défi et lorsqu'on l'atteint, on est heureux. En carrière, si vous êtes dans les 5 premières années, c'est souvent de s'approprier le rôle, connaître les différentes tâches, faire un cycle au complet. Quand vous avancez en carrière, vous avez toujours le désir de vous dépasser, de vous émanciper. Parfois, ça va être de donner de la formation à des plus jeunes, avoir des mandats d'envergure plus large, gérer une équipe. Mais le besoin de compétences vous accompagne tout au long de votre vie. Donc, ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin, c'est le besoin d'autonomie qui ne doit pas être confondu avec l'indépendance. L'autonomie, c'est une perception de choix à l'intérieur de certaines règles et limites. Est-ce qu'il y en a ici qui n'arrêtent pas aux lumières rouges lorsque vous êtes au volant? Tout le monde respecte cette règle-là? OK. Est-ce que lorsque vous arrêtez à la lumière rouge, vous vous dites intérieurement « Je déteste mon gouvernement qui m'oblige à restreindre ma liberté individuelle au profit de la sécurité publique? »
Ça dure plus d'une minute. Oui.
C'est pas très long. Pourquoi vous faites le choix d'arrêter? C'est que vous avez intégré le fait que c'était possiblement dangereux de traverser pour vous et pour les autres. Vous avez un passager qui est votre ami qui s'est coupé le doigt, ça saigne abondamment, puis vous devez vous rendre à l'hôpital et il y a une lumière rouge, mais il n'y a personne. Est-ce que vous décidez de briser la loi? Vous allez choisir à l'intérieur de certaines règles et limites. Donc, l'autonomie, c'est une perception de choix, qu'elle soit réelle ou fictive, et c'est aussi d'agir en conformité avec ses valeurs, donc de ne pas aller à l'écart de qui on est. Donc, c'est à la fois un mélange de perception de choix et de concordance personnelle. Le troisième élément, comme Laurent en a parlé dans certaines théories, ça va être tout ce qui est affiliation, connexion ou relation sociale. On peut l'appeler le besoin d'amour, d'amitié, etc. Mais l'être humain, on n'aime pas être seul, on aime être en couple, en groupe, en famille. On a un instinct grégaire. Quand je vous dis que ce sont trois besoins principaux, c'est qu'il y en a plus que trois. Il y a des enquêtes qui ont testé simultanément aux États-Unis, Canada, Russie, Corée puis Japon, c'était quoi les besoins les plus importants lorsque ça va très bien et lorsque ça va très mal. On a rajouté à la liste, il y avait l'estime de soi, le besoin de confort, de sécurité, etc. Invariablement, lorsque ça va très bien ou très mal, les trois plus puissants au niveau statistique sont ces trois-là. En anglais, on l'appelait le « big three », les trois gros facteurs. Donc, il y en a plus que trois, et par souci de simplicité, on conserve ces trois-là, qui sont les trois principaux les plus prédictifs. Ces trois besoins-là, lorsqu'ils sont satisfaits, ça augmente la probabilité de voir apparaître plaisir et sens qui amènent des conséquences positives. Pourquoi on connaît une telle séquence? C'est qu'on va mesurer ces trois boîtes-là dans le temps à plusieurs reprises et on regarde statistiquement dans quelle direction les relations vont. On sait que ça va de gauche à droite et c'est statistiquement soutenu. Ici, vous voyez que ce sont les trois mêmes besoins, mais qui sont frustrés. Lorsque le besoin de compétence est frustré, c'est lorsqu'on vous dit activement « c'est pas bon ce que tu fais, c'est vraiment horrible, c'est pas du bon travail ». Le besoin d'autonomie, lorsqu'il est frustré, c'est qu'on vous impose une façon de faire qui n'est pas vous, ou encore qu'on vous enlève votre marge de manœuvre, on vous oblige à agir d'une façon. Et le besoin d'affiliation, lorsqu'il est frustré, non seulement vous ne vous sentez pas inclus dans un milieu de travail, activement vous êtes repoussé. Ici, c'est l'équivalent des fruits et des légumes pour votre cerveau, ce qui augmente les bons types de motivation, ce qui augmente les bonnes conséquences. Quand le cerveau ne peut pas avoir des fruits et des légumes, il se rabat sur le fast-food. Et le fast-food, pour l'être humain, c'est votre réputation et les récompenses. On appelle vraiment ces types de motivations-là des motivations compensatoires parce que vous n'avez pas les vrais nutriments qui vous permettent de vous émanciper. Donc, vous vous rabattez sur une alimentation psychologique de moins bonne qualité. Puis c'est la même logique ici que vous avez la séquence qui va de gauche à droite. Ce que vous voulez, c'est d'augmenter la satisfaction des besoins de compétences, d'autonomie et d'affiliation sociale. Ces trois besoins-là sont importants pour tout le monde, partout, tout le temps. Il n'y a pas de moment où une plante n'a pas besoin de soleil. Si vous prenez une plante et vous la mettez dans votre placard pendant 3 mois, les chances sont assez fortes qu'elle va décéder. Okay? Combien de temps vous pouvez survivre sans nourriture, mais avec de l'eau? J'ai souvent quelques semaines. Okay? Combien de temps vous pouvez survivre sans eau et sans nourriture? C'est quelques jours, 2, 3, 4 jours. Si je prends une cloche de verre et je la mets au-dessus de Laurent et j'enlève tout l'air qu'il y a dedans, combien de temps Laurent va survivre?
Pas longtemps.
Quelques minutes.
Quelques minutes. Là, on va faire un petit test ici.
Je vais prendre ça ici. On va regarder si un ordinateur, c'est un besoin psychologique. Donc, on voit Laurent qui sourit encore, il semble respirer, son cœur bat, il a le teint rose. Un ordinateur ou un téléphone intelligent, ce n'est pas un besoin psychologique. Mais si on met une cloche et on enlève l'air, c'est un besoin.
Donc, au niveau psychologique, c'est peut-être moins saillant qu'enlever l'air autour de quelqu'un, là. Mais un besoin psychologique, la définition, c'est lorsqu'il est satisfait, on voit l'être vivant s'émanciper, avoir du plaisir, trouver du sens. Lorsque ce besoin-là est frustré, on voit l'être humain, l'être vivant, dépérir. Donc, les motivations compensatoires vont augmenter. Donc, tant pour vous que pour vos collaborateurs, le but souhaité, c'est que les trois besoins soient satisfaits pour tout le monde, partout, tout le temps. Là, je vais vous poser une question ici. Vous avez des motivations plaisir, sens, orgueil et récompense. On parle souvent des nouvelles générations qui vont intégrer le monde du travail versus les baby boomers ou les gens qui sont plus, comment on les appelle, les traditionnels ou les gens plus expérimentés. Êtes-vous capable de classer certaines générations dans certains types de motivation? Et si oui, ça serait quelle génération irait dans quelle petite boîte? Avez-vous des...
Des préjugés?
Ah, j'ai pas dit ça encore. Avez-vous des possibilités dans votre tête?
J'ai tendance à dire que les plus jeunes générations aujourd'hui fonctionneraient fort avec ce qui est au-dessus.
Plus ce qui est au-dessus. Puis les autres générations...
On leur a appris, on leur a inculqué sur tout le bas.
Donc, si on mesurait avec différentes strates d'âge, on percevrait des différences statistiquement significatives. Est-ce qu'il y a des différences culturelles, par exemple? Si on compare les pays ou les Flamands, les Wallons, donc si on mesure tout le monde, hein, les Québécois francophones, Canadiens français, Canadiens anglais, est-ce qu'on percevrait des différences entre les types de motivation?
Des cultures ou qui ont plus le travail dans la culture.
Donc, des fois, on va parler de l'éthique de travail protestante où les gens sont plus réguliers. On les a mesurés en français, anglais, portugais, espagnol, italien, grec, allemand, norvégien, suédois, finlandais, lituanien, estonien, tchèque, catalan, arabe, indonésien, vietnamien, chinois.
Et japonais.
Et il n'y a pas de différence. Donc, si on lève le capot d'un être humain et qu'on regarde comment le moteur fonctionne, c'est pareil. On compare les jeunes, les vieux, avec l'âge en variable continue ou segmentée, aucune différence statistiquement significative. Vous pouvez être un baby boomer et vous soucier de l'argent parce que vous avez 3 décapotables à maintenir, et vous pouvez avoir 22 ans, vous rentrez sur le marché du travail, vous avez un enfant à charge et vous venez d'acheter votre maison, vous avez des soucis financiers. Peu importe le stade de vie où vous êtes, l'emploi que vous occupez, on peut attirer votre attention ici versus là. Il va y avoir des tendances individuelles propres à la personnalité, mais ensuite, il y a le milieu et la culture. C'est là que les leviers viennent en jeu. Vous remarquez que ce sont les mêmes leviers qui sont en haut et en bas. On les organise hiérarchiquement. Donc, le travail que vous faites comme tel, l'ensemble des tâches peut être intéressant ou non. Il y a certaines tâches qui, intrinsèquement, sont moins agréables à faire. Les relations avec vos collègues, avec la clientèle, peuvent être démotivantes ou encore motivantes, enrichissantes. Votre supérieur immédiat, votre patron, votre boss, peut être très contrôlant, être très dirigiste, faire du micromanagement, ou encore vous donner une certaine destination finale en vous laissant libre de choisir comment y parvenir. Le département ou encore l'organisation auquel vous appartenez peut avoir un climat de travail démotivant ou encore stimulant. Et finalement, certaines données qu'on collige avec différents pays, parfois la culture peut légèrement faciliter ou nuire à la satisfaction de vos besoins, mais ça a un effet relativement ténu. Donc, dans votre existence, ce qu'on veut le plus possible, c'est d'augmenter toute la séquence qui est en haut. L'idéal, ce serait une vie où votre travail est intéressant, vous aimez vos collègues, votre supérieur vous supporte et vous donne des défis intéressants. Le département et l'organisation ont une culture positive et le pays auquel vous appartenez vous aide également. Un scénario catastrophe, ça serait un travail inintéressant, des collègues que vous détestez, un patron que vous levez la nuit pour la haïr, et département ou organisation, c'est toxique, les gens vont vous dire je pense au lundi matin et j'ai des brûlures d'estomac. Ou encore un pays qui va avoir des politiques soit de travail ou légales très contraignantes. Donc, lorsqu'on fait des diagnostics en milieu organisationnel, puis c'est ce que les entreprises libérées ont comme compris, puis Isaac Goetz qui mentionne nommément la théorie de l'autodétermination, c'est qu'à l'intérieur de l'être humain, il y a tout ce qu'il faut pour être bien et être bon au quotidien. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment le vin, puis qui ont une cave à vin, puis qui font vieillir un peu leur vin? OK. Avez-vous déjà essayé de prendre une bouteille de vin et de hurler après la bouteille de vin pour qu'elle vieillisse plus rapidement? Avez-vous déjà essayé?
Bon.
OK. Puis pourquoi vous attendez patiemment que le vin vienne à son plein potentiel avec les années? Avez-vous confiance que le vin va se bonifier avec le temps? Ça dépend lesquels, mais mettons que vous avez un grand ensemble, vous êtes relativement certain qu'en attendant le nombre d'années prescrites, que la plupart des vins vont se bonifier. Vous n'avez pas confiance. Vous n'allez pas dire au vin que tu es aussi bien de ne pas trop virer au vinaigre. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment le jardinage? Mm-hmm. Quelques personnes, avez-vous déjà essayé de crier après votre plante tomate? Vous avez confiance que dans la tomate, si vous enlevez les mauvaises herbes, que vous donnez de l'engrais, que vous arrosez suffisamment, mais pas trop, qu'il y ait du soleil, que la tomate va faire ce qu'elle fait de mieux. C'est la même logique avec l'être humain. En soi, on a une tendance... Oui, ça marche avec les enfants. Ma conjointe, elle utilise cette théorie-là pour donner des cours de parents en 7 soirées, et ils sont capables de détecter les éléments positifs chez les parents, chez les enfants et chez les enseignants des enfants. Donc, que ce soit parents, enfants, gestionnaires, employés, coach, athlètes, les comportements sont les mêmes et on peut les apprendre. Je vous donne des exemples de résultats de recherche et des résultats dans la vraie vie. Vous avez ici un article qu'on a publié dans Work and Stress. Là, je me rends compte que c'est les mauvais types de motivation, donc je vous demande les intervertir dans votre tête. Ici, c'est une enquête qu'on a faite avec un échantillon de 700 infirmières au Québec. Au Québec, début des années 2000, ça coûtait trop cher la santé. On a tout pris les infirmières et on les a envoyées en retraite anticipée. Depuis ce temps-là, on est dans le pétrin, on manque d'infirmières et on leur demande de faire des heures supplémentaires obligatoires. Donc, vous êtes une infirmière avec 2 jeunes enfants à la maison, vous regardez l'heure, vous voulez aller à la garderie, à la crèche. Là, on vous dit, non, tu ne quittes pas, tu dois faire un autre 12 heures. On augmente les demandes envers les infirmières. Les flèches vertes, ce sont des corrélations positives, les flèches rouges, ce sont des corrélations négatives. Lorsqu'on augmente les demandes à votre égard, ça augmente la frustration de votre besoin, de vos besoins psychologiques. Lorsqu'on vous demande de rester après 12 heures, vous ne vous sentez pas efficace. Vous ne prenez pas le temps de jaser avec le patient pour voir ce que ça va, comment vous sentez. Vous êtes dans l'urgence d'agir. Vous avez un large éventail de patients à prendre soin, puis vous avez peu de temps. Vous ne sentez pas que vous avez le choix. Là, ce n'est pas les bons types de motivation, il faut les changer. Ça augmente la pression intérieure. Les patrons vont dire, bien, tu ne peux pas abandonner tes patients. On joue avec le sentiment de culpabilité. Et on leur dit, c'est pas grave que tu fasses du temps supplémentaire. supplémentaires, on va les payer temps double ou temps triple, donc deux fois ou trois fois le salaire. Mais ce qu'on récolte au final, c'est des infirmières en détresse qui font des plaintes somatiques. Ça réduit l'engagement et ça diminue la performance. On a un cas qui est arrivé à l'automne où l'infirmière avait 174 patients à s'occuper. Et il y en a un qui est décédé. Donc, c'est une faute grave qui est punissable par son nom professionnel. Et le gouvernement a dit « Ah, c'est de notre faute. On vous a donné trop de trucs à faire. C'est pas grave, on ne vous accuse pas du décès de la personne. Imaginez-vous être la famille de cette personne-là. Vous sentez-vous bien que votre être cher est décédé? » Donc, ça, c'est un exemple flagrant de ça. Les ressources, lorsqu'on vous donne les ressources, vous êtes suffisamment d'infirmières dans une unité, vous êtes capable de vous sentir compétente, vous choisissez d'être là, c'est agréable, et vous prenez le temps de discuter un minimum, ce qui va augmenter le plaisir et le sens, c'est augmenter l'engagement et la performance. Donc, ça, c'est un exemple, dans la vraie vie, d'application de recherche où on est capable de déceler que, bien, dans le fond, il faut augmenter les ressources parce qu'on ne peut pas diminuer la demande. 52 % de nos impôts vont au système de santé au Québec. Donc, la population, si le Québec est un pays séparé, on aurait la deuxième population la plus vieille sur la planète après le Japon. Donc, c'est sûr que les demandes en santé ne diminueront pas. Ça, là, je vais le sauter. Ici, c'est une méta-analyse, plein de beaux petits chiffres. Là. Une méta-analyse, c'est qu'on a pris 84 études différentes où on a 9400 personnes. Je veux juste vous montrer que la séquence, ça se tient, peu importe que vous soyez col blanc, col bleu, peu importe le secteur. Plus vous avez de soutien, plus vos besoins sont satisfaits, plus ça va augmenter les bons types de motivation, ce qui va augmenter la santé dans votre tête et dans votre corps. Si vous percevez une absence de soutien, les besoins vont être frustrés, on ne l'a pas mesuré là-dedans, ça va augmenter les motivations introjectées ou extrinsèques, ou encore la démotivation, ce qui va vous nuire. Il y a des enquêtes fort intéressantes qui sont faites soit avec le niveau de cholestérol, donc HDL, LDL, ou encore, on appelle ça le spit test. Le spit test, c'est que vous crachez dans une petite éprouvette, c'est centrifugé, puis on va détecter votre niveau d'immunoglobine A, c'est une hormone de stress. Ou des fois, on va demander un petit Q-tips que vous allez curter l'intérieur de votre joue 5 fois dans la journée. Votre corps, il sait que ses besoins psychologiques ne seront pas satisfaits. Et il y a une corrélation très forte entre ce que votre corps émet comme agent défensif et le milieu de travail. Il y a des enquêtes qui testent le niveau de bonheur des gens par jour de la semaine. D'après vous, c'est quoi le jour de la semaine où les gens sont le plus heureux?
Mercredi.
Si on prend tous les jours de la semaine, là, du lundi au dimanche?
Samedi.
Samedi, vous avez un pic de bonheur incroyable. Yeah! Je vais pouvoir jardiner, jouer au tennis, passer plus de temps. Puis la journée que les gens redoutent le plus?
Le dimanche soir.
Le dimanche soir. Tellement que ça avait un nom, ça s'appelle le Sunday Night Effect. L'anticipation du lendemain. Vous êtes chez vous, vous êtes peut-être devant un feu de foyer en train de gentiment flatter votre chien, à siroter un bon verre de vin, mais votre tête est déjà ailleurs, puis votre corps le sait, et ça va être détecté avant même que vous sachiez que vous ressentez ça. Donc, tant au niveau physique que psychologique qu'émotif, ces séquences-là sont vérifiées. Là, je vous ai montré des résultats de recherche. Ça s'approche un peu de la vraie vie. On va aller voir dans la vraie vie, est-ce que ça marche? Une des questions que j'ai tout le temps, puis je la présente tout de suite pour l'enlever de la table, c'est bien beau que mes employés se sentent bien et heureux, qu'il y ait le sourire de l'ordinateur, mais est-ce que c'est rentable? On a publié un chapitre de livre dans le Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation and SDT, où on a pris tout ce que les économistes font pour l'appliquer au modèle de l'autodétermination. On a montré avec des analyses économétriques, je pourrais vous donner la référence, là, que chaque dollar investi pour augmenter les bons types de motivation pouvait rapporter jusqu'à 3,19, soit en augmentation de performance ou en diminution de coûts comme d'assurance salaire ou de médicaments ou de consultations médicales. Donc, est-ce que c'est rentable d'augmenter les motivations plaisir et sens? On a publié un chapitre là-dessus. Le Canada, c'est 10 provinces différentes avec 3 territoires. Une des provinces, c'est le Nouveau-Brunswick, c'est la province qui est à l'est du Québec. Ils ont développé une stratégie de santé mieux-être qui ressemble à ça. Donc, il ne faut pas fumer, il faut bien manger, il faut bouger. Mais la grosse partie de la tarte qui est santé psychologique et résilience, ce sont les 3 besoins. les gens du gouvernement du Nouveau-Brunswick ont vu des gens présenter sur la théorie de l'autodétermination. Ils ont dit « ça marche, on va l'appliquer chez nous ». La beauté de la chose, là, c'est que si vous allez sur Internet, Stratégie Santé Mieux-Être, gouvernement du Nouveau-Brunswick, ils vous donnent tous leurs trucs. Dans les écoles, dans les milieux de travail, dans les ministères, dans les entreprises privées, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour augmenter, quels résultats on a eu, ça a été quoi l'incidence, etc. On va tous vous donner des trucs. Il y a le Conference Board du Canada, qui est un organisme indépendant qui crée des enquêtes, qui a pris le gouvernement du Nouveau-Brunswick comme une étude de cas à répéter en milieu de travail. Dans tout le Nouveau-Brunswick, toute la population, c'est 800 000 personnes. Donc, juste sur l'île de Montréal, on est 2 millions. Eux, dans toute la province, sont 800 000. En 6 ans, uniquement avec les employés du gouvernement, ils ont sauvé 11,2 millions de dollars en réclamations d'assurance. Ils ont fait le lien entre plus les besoins psychologiques sont satisfaits, moins on a de gens malades. Donc, la corrélation était claire. Ils viennent d'avoir des élections l'an passé, ils ont montré ces résultats-là, ils ont été réélus parce que les gens se sentent soutenus au quotidien. Quand les parents arrivent à l'école, ils savent que les besoins psychologiques de leur enfant vont être satisfaits. Ils arrivent dans différents ministères où ils travaillent, ils savent qu'il y a quelqu'un à quelque part qui veut se soucier d'eux sous l'angle des besoins psychologiques. Donc, ça, c'est un exemple d'application dans la vraie vie avec des résultats pas mal. Connaissez-vous la firme Stimulus? Non, c'est une firme qui est basée à Paris. Ils font des évaluations de risques psychosociaux en entreprise. Ils vont passer des questionnaires aux gens pour voir c'est quoi les secteurs ou les départements qui vont moins bien, quel levier on peut activer. Puis vous voyez qu'ils parlent de motivation autonome. On a reçu un appel il y a 2 ans où ils nous ont dit « ça fait 3 ans qu'on utilise vos questionnaires, on a des données avec 2000 personnes. Voulez-vous les utiliser? » À tous les jours de ma vie, moi, je rêve d'avoir des données. Là, ils m'appellent et ils m'en donnent 2000 sur un plateau d'argent. J'ai dit oui. Puis avec leurs données, on était capable de montrer que plus vous avez de plaisir et de sens, moins vous voulez quitter. Plus vous voulez mettre des efforts pour votre employeur, plus dans votre vie personnelle, vous allez parler en positif de votre employeur. Donc, ils ont des données de consultation. Ça a été dénominalisé, donc ça a été anonyme et confidentiel, mais qui montrent encore là la même séquence. On a un partenariat de recherche avec les Forces armées canadiennes. Puis je vous donne l'exemple des pilotes de F-18. Quand vous embarquez dans l'armée canadienne, on va vous donner un emploi, un diplôme, on vous paye durant vos études. Donc, si vous voulez devenir pilote de F-18, entre le moment que vous êtes choisi comme cadet et vous êtes autonome avec l'avion, ça nous coûte 1,2 million de dollars. Donc, chaque pilote coûte 1,2 million de dollars. À chaque heure de vol, c'est 17 000 dollars. Okay. Donc, quand le petit oiseau décolle, là, il doit avoir une bonne raison. Et vu qu'on vous a payé durant 5 ans, ce qu'on vous demande, c'est de rester pendant 5 ans. Donc, pour compenser le temps qu'on a investi en vous. Ce qui est arrivé les dernières années, c'est que les compagnies aériennes, Air Canada, WestJet, etc., allaient voir les pilotes après 5 ans et cognaient à leur porte. T'es tanné d'être dans le Grand Nord du Québec, dans un village de 200 personnes, pour faire de la patrouille de bombardiers russes. Viens-t'en à Montréal, tu vas conduire un autobus du ciel, on va te payer un quart de million de dollars. Donc, ils débauchaient les pilotes, sont jeunes, sont en parfaite santé, puis sont excessivement rigoureux et disciplinés. Donc, l'armée, dans le fond, subventionnait les compagnies aériennes avec des pilotes de qualité, et on se retrouvait à embaucher des pilotes soit britanniques ou australiens, trop obèses pour rentrer dans les sièges et qui ne respectaient même pas les standards de santé de départ. Donc, on avait les avions pour les faire voler, mais personne pour les faire voler. Ils ont utilisé la théorie de l'autodétermination, puis on va aller donner de la formation dans la base militaire de Petawawa au mois de mars. Ils ont appliqué les principes que je vous ai dit aux pilotes. Je vais vous montrer, c'est d'une simplicité désarmante. Les pilotes aiment piloter. C'est ça qu'ils aiment. Donc, ils se sont dit, au lieu de faire, mettons, un vol de 4 heures dans la semaine, on va faire plusieurs petits vols de 30 minutes. Donc, les pilotes aiment être dans les airs, mais ils aiment préparer l'avion, faire le plan de vol, enfiler l'équipement. Donc, ils ont simplement séquencé les heures de vol pour augmenter le plaisir. Deuxième truc qu'ils ont fait pour augmenter le sens, parfois, on a beaucoup de bases aériennes dans le Grand Nord, Cold Lake en Alberta, Goose Bay au Québec, justement pour intercepter les bombardiers russes. Il n'y a pas grand-chose à faire à Cold Lake puis Goose Bay. Mais parfois, on déplace les avions d'un endroit à l'autre. L'armée canadienne récemment a fait le air policing en Estonie puis en Islande. Donc, quand ils sont en déplacement, ce qu'ils font, ils font arrêter les pilotes dans les grands centres, Montréal, Québec, Ottawa, puis ils invitent les gens à venir les rencontrer. Moi, je me souviens, j'avais 8 ans à Mirabel, puis j'ai vu un pilote de F-18, puis je me suis assis dans l'avion. J'ai encore la photo Polaroid de ce moment-là. Moi, c'était mon rêve d'être pilote de chasse quand j'étais jeune. Ça, j'ai très mal viré. Donc, quand ils voient l'impact de leur travail au quotidien, quand ils voient que le public ils les remercie, merci de votre dévotion au pays, etc., ils sont capables de connecter, ils trouvent un sens à ce qu'ils font. Il n'y a rien qui a coûté cher. Ils ont juste écouté la façon de satisfaire les besoins psychologiques des pilotes avec des résultats relativement heureux. Donc, si on a jusqu'à 1 heure, jusqu'à 40, c'est bon? OK. Une question que Laurent m'a attiré mon attention en s'en venant ici, c'est comment, avec 19 items, on peut mesurer les différents types de motivation. Donc, celles et ceux qui ont répondu ou qui vont répondre au questionnaire, je vais en parler vite, demain, on va l'aborder plus en profondeur. Par exemple, on a 3 items pour mesurer motivation intrinsèque. Est-ce que mon travail, j'ai du plaisir? Est-ce que c'est stimulant ou intéressant? Pourquoi juste 3 items? Puis, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est stimulant? J'ai aucune idée, dans votre travail, c'est quoi qui est intéressant ou stimulant. On demande juste le ressenti phénoménologique. Les 19 items que vous avez, au départ, il y avait 54 items qui sont passés à 39, qui sont passés à 24, qui sont passés à 19. C'est moi qui faisais les analyses psychométriques. Essentiellement, quand vous faites des analyses, soit factorielles, exploratoires, confirmatoires, vous retranchez les items qui vous donnent peu d'informations sur le facteur que vous voulez mesurer. Donc, au départ, pour motivation intrinsèque, on avait à peu près 10 d'items. Mais pourquoi poser des questions inutiles qui ne donnent pas d'informations quand vous êtes capable d'ordonnancer les meilleurs? Donc, on a fait ce choix-là. Ce pourquoi on en a 3 et non pas 2 ou 4. 3, c'est le minimum que vous pouvez avoir pour avoir une cohérence interne, pour calculer une cohérence interne statistique. Si vous en avez 2, c'est seulement une corrélation inter-item. Puis si vous en avez 4, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc, 3 items pour mesurer le plaisir. Pour mesurer le sens, on a 3 items. C'est important de faire des efforts, ça correspond à mes valeurs, puis ça a une signification personnelle. Donc, on ne vous demande pas c'est quoi vos valeurs, tant et aussi longtemps que vous êtes aligné là-dessus. Motivation introjectée, on le voit peu, mais c'est écrit « approche » ici, « évitement ». Approche, c'est vouloir se prouver. Je dois me prouver à moi-même que j'en suis capable, je me sens fier de moi. Ça, c'est vouloir se prouver, c'est la portion approche. La portion évitement, c'est parce qu'autrement, j'aurais honte de moi, parce qu'autrement, je me sentirais mal face à moi-même. Donc ça, c'est la portion évitement, on veut éviter ça. Là, il y a des super bons exemples aux Jeux olympiques présentement. Excusez-moi si je parle de ça, je travaille avec le comité olympique psychiatrique. Vous avez des athlètes qui gagnent la médaille d'or et qui vont dire « je suis soulagé ». Parce que les gens avaient des attentes à mon égard. Ça, c'est carrément de l'évitement. Je veux éviter de ne pas avoir de médaille. Ils ne sont même pas contents de l'avoir gagné. On a eu une médaille de bronze en slopestyle, un jeune de 22 ans. Le journaliste le prend en bas de la pente. Il dit « vous devez être content d'avoir gagné la médaille de bronze ». Il dit « ah non, moi j'étais vraiment content de ma descente. Mais tout de même, une médaille pour votre pays ». Il dit « non, non, c'est vraiment pas important pour moi. Je suis vraiment content d'avoir fait cette belle descente-là ». Donc, les gens ont de la misère à comprendre pourquoi, mais lorsqu'on gratte la surface et on regarde en dessous, c'est les motivations qui vous animent. La motivation extrinsèque, on a plus d'items parce qu'on mesure social approche, social évitement, matériel approche, matériel évitement, pour obtenir l'approbation de certains, me faire respecter davantage, éviter les critiques. Me récompenseront financièrement, m'assurer une plus grande sécurité ou j'aurai peur de perdre mon emploi. À l'intérieur d'introjecté et extrinsèque, ce qui est en haut est de meilleure qualité que ce qui est en bas. Donc, ce qui est la force de la théorie de l'autodétermination, c'est de vous expliquer les raisons de la meilleure à la moins bonne. Pourquoi on est capable de dire de la meilleure à la moins bonne? C'est qu'on mesure les conséquences, soit physiques, émotives ou psychologiques, et on constate une progression vers le négatif, moins on est autodéterminé. Les principes de l'entreprise libérée, c'est entre autres de mettre en place des conditions qui permettent à l'être humain de faire ce qu'il fait de mieux. Finalement, la démotivation, c'est j'en fais peu parce que j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps, j'en fais peu parce que je ne crois pas que mon travail en vaille la peine, je ne sais pas pourquoi je fais ce travail, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est les items de mesure. Et peu importe les langues, les items se regroupent entre eux de cette façon-là. J'ai reçu la semaine passée les données en finlandais. Est-ce qu'il y en a qui parlent finlandais? Non. Je ne parle pas finlandais. Je vois les items, je ne comprends rien. Je m'en vais dans Google Translate, puis je sais c'est quoi. Et mathématiquement, ça sort de la même façon. C'est comme la gravité. Je prends la petite enveloppe ici, puis je la laisse tomber. Qu'est-ce qui va se passer?
Elle va tomber.
Elle va tomber. Je m'en vais à Zaventem, j'achète un billet d'avion pour l'Ouzbékistan. Je sors de l'avion, puis je le laisse tomber. Qu'est-ce qui va se passer?
Elle va tomber.
Elle va tomber. La gravité, c'est universel, 9,8 mètres par seconde carré. Okay? C'est la même logique avec ça. L'être humain, on n'a pas un cerveau de travail puis un cerveau de maison. On est pareil, peu importe la langue que l'on parle. Ça, je vais les passer. Ça, c'est toutes les langues qu'on a. Et plus encore, ça n'arrête pas de rentrer les demandes. Ça, les études de cas, je vais les passer. Puis on va tout de suite aller, on parle des Olympiques. Je vais vous montrer que ce qui vous permet de sauver des réclamations d'assurance, ça vous permet aussi de gagner des médailles olympiques. Y a-t-il le son, Laurent? Est-ce qu'on peut le mettre?
Je crois que oui. Ça marche ou pas?
C'est celui-là. Je pourrais vous montrer une petite vidéo.
Un, deux.
OK. Ouais, ça marche. Je vais vous présenter un vidéo. Vous allez comprendre un peu.
Là, j'ai...
Je vais vous montrer la vidéo de la médaille d'or. C'est à Sochi, c'est pas à Pyeongchang.
Voici Justine Dufour-Lapointe. She's such a firecracker. She calls herself a lion when she's on course.
Bien parti sur le saut de haut. Allez, reste fluide.
Here she goes. She's building the speed, attacks the moguls.
This is where she'll make it or break it.
Big back layout.
Push her.
Great
her.
Turn.
It's a gold medal for Justine Dufour-Lapointe.
Wow!
A sensational night at Rosa Couture Extreme Park, from the mountains of Laurentian, learning the sport, to the top of the Olympic podium. A tremendous performance from Justine Dufour-Lapointe.
She can hardly believe it herself.
J'aime bien la petite dernière phrase. Nous sommes l'hiver. Durant le temps des fêtes, on a eu des températures de moins 37. Donc, on est vraiment l'hiver. OK. Là, vous avez vu la descente à Sochi de la médaille d'or. D'après vous, qu'est-ce que Justine se dit dans sa tête lorsqu'elle descend? Si on était capable d'enregistrer son dialogue interne, qu'est-ce qu'on entendrait dans le micro? Allez-y. Il y en a qui disent rien.
Concentration.
Concentration, donc on l'entendrait dire concentration.
Plaisir.
Okay. Est-ce que vous pensez que lorsqu'elle descend, elle se dit « J'ai tellement hâte d'encaisser le chèque de Sport Canada de 10 000 $ pour une médaille d'or. »
Non, pas vraiment.
Est-ce que, non, OK. C'est des mots-clés, des éléments. Ce qui est particulier, là, je vous ai montré la descente de la médaille d'or. Ça, c'est Justine Dufour-Lapointe. Celle qui a gagné la médaille d'argent, c'est sa sœur, Chloé Dufour-Lapointe. Puis, il y avait une troisième sœur qui était une Olympienne, Maxime Dufour-Lapointe. Puis, il y avait une quatrième athlète qui s'appelle Audrey Robichaud. Donc, vous avez trois sœurs qui sont belles, sont brillantes, ça faisait des super images. Puis là, ils ont gagné or et argent. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait avec Ski Acrobatique Canada. Ici, vous avez mon ami Jean-Paul, qui est le coach, qui a été coach de l'équipe de ski du Québec, de la Suède, puis ensuite du Canada. Une saison sur la Coupe du monde, ça commence au mois de mai que vous entraînez en salle. Au mois de juin, vous allez à Whistler pour vous entraîner sur le glacier. Au mois de juillet, vous revenez ici, vous faites de la trampoline. Au mois d'août, vous allez en Australie parce qu'il y a de la neige au mois d'août. Septembre, octobre, c'est l'affûtage physique. Vous allez à Zermatt, en Suisse, pour tout le mois de novembre pour vous entraîner, pour faire des top to bottom, des descentes. La saison commence à Ruka, en Finlande. Là, après, vous allez en Asie, en Europe, en Amérique, vous faites le tour du monde. Puis là, s'il y a un championnat du monde, ça vous rajoute une compétition. Puis si vous avez des Olympiques, ça vous rajoute une compétition. Donc là, je vais vous parler de ce qu'on a fait pour Sochi. Une des particularités à Sochi, c'est que la remontée mécanique était juste à côté de la descente. Donc, en tout temps, il pouvait y avoir la distraction de voir vos adversaires, de voir leur score, etc. Vous aviez trois sports au même endroit, avec des gradins, à peu près à 70 % où les billets étaient réservés aux Russes. Donc, il y avait des supporters de différents pays, mais beaucoup moins que les Russes. Vous reconnaissez ça? C'est exactement ça que j'ai. À chaque fois que quelqu'un me parle, c'est ça que j'ai dans la tête. C'est mon petit côté autiste. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait basé là-dessus. Les Olympiques à Sochi, c'était le 8 février 2014, mais vraiment, les Olympiques se sont gagnés le 6 juin dans un sous-sol d'un hôtel. Okay? On a fait le plan pour que tout le monde ait leurs besoins psychologiques satisfaits partout, tout le temps. Un des trucs qu'on a fait, vous avez l'équipe des hommes et des femmes qui se battent pour les mêmes ressources. Donc, les deux coachs, un peu des combats de coq. On a fait de la résolution de conflits parce que lorsque les entraîneurs se chicanent, se disputent entre eux, ils ne sont pas en train de prendre soin des athlètes. Donc, ça, c'est un des trucs qu'on a fait. Étonnamment, même si le Canada, on est pas mal la nation qui domine ce sport-là, il y avait des craintes de manque d'argent pour terminer la saison. Souvent, les commanditaires, c'est des cycles olympiques qu'ils font. Et les athlètes se disaient, OK, est-ce qu'on se rend aux Olympiques et est-ce qu'on finit la saison? Ils avaient perdu quelques gros commanditaires et il y a une compagnie qui vend des pneus qui a dit, si on vous signe un gros chèque, est-ce que vous pouvez mettre notre logo sur vos manteaux? Et on dit oui. Fait que là, ça l'a enlevé l'argent comme souci. Le corollaire de 100 milieux de travail, est-ce qu'il y en a qui sont rentrés dans la salle tantôt et vous vous êtes dit intérieurement, mon Dieu, que l'air est qualité ici? Est-ce qu'il y en a qui ont... Leur première pensée immédiate, c'était ça. S'il faisait moins 37 dans la salle, est-ce que ça serait quelque chose qui est plus saillant à votre esprit? Vous seriez en train de grelotter en disant, « Pourquoi tu fais ça ici? » L'argent, c'est comme la ventilation. Il faut bien s'en occuper pour que ça ne devienne plus un souci. Donc, en milieu de travail, il faut que le salaire soit juste et équitable pour ensuite le mettre de côté. Donc, les commandites, ils ont dit aux filles, « Inquiétez-vous pas, on se rend aisément jusqu'à la fin de la saison. Faites-vous pas de soucis là-dessus. » Je vous partage aussi une petite anecdote. Le commanditaire d'équipement électronique du Comité international olympique, c'est Samsung. Ils sont en Corée, le pays de Samsung. Je ne sais pas si vous avez vu le slogan des Jeux olympiques de Pyeongchang, c'est « Passion.connected ». En gros, c'est acheter des téléphones Samsung, je ne vais pas le dire. Le soir, la veille de la compétition la plus importante, la finale, les filles rentrent dans leur chambre, ils ont trois cadeaux sur leur lit. Une immense tablette électronique, un grand, le nouveau téléphone, celui qui explosait dans les avions, là, un nouveau téléphone Samsung et une montre intelligente. Non seulement ça, ils regardent la montre et leur nom est gravé à l'intérieur avec le logo olympique canadien sur les trois éléments. Donc là, les filles sont folles de joie, elles se sentent importantes, on reçoit des récompenses du comité. Puis ils se mettent à jouer avec les équipements électroniques. Vous êtes les coachs, la veille de la compétition la plus importante de votre vie. Qu'est-ce que vous faites avec ces récompenses-là? Exactement. Tu vas avoir tout le restant de ta vie pour jouer avec, pas de soucis. Je vous les garde. Pouvez-vous croire qu'il y a des athlètes qui ont raté leur podium ou qui ont complètement bousillé leur performance parce qu'ils ont joué jusqu'à 4 heures du matin avec ces petits bidules-là? Donc ça, petite anecdote, ils ont enlevé les récompenses, sachant que c'était une distraction, au lieu de leur laisser. Vous avez les coachs de l'équipe des filles, des gars, vous avez Ski Acrobatique Canada qui doit négocier avec le Comité olympique canadien pour avoir le plus de ressources. Parce qu'il est très difficile aux Jeux olympiques, c'est que vous avez des accréditations qui vous donnent accès ou non aux différents sites. Sur une Coupe du monde normale, n'importe qui peut être là, mais aux Olympiques, vous avez un nombre limité de physiothérapeutes, massothérapeutes, nutritionnistes. Et il fallait politiquement négocier ces ressources-là. Ils ont envoyé deux containers complets de bateaux d'équipement. Quand vous envoyez un container dans un bateau, ça part de Montréal, vous voulez être certain que ça se rende à Sochi, vous voulez la bonne compagnie. Donc, il faut que tu négocies ces ressources-là. Politiquement, on essaie de réduire les frictions pour que ça soit le plus équitable possible. Puis on avait un fichier Excel de qui fait quoi, quand, où, comment et pourquoi pour dire qui a accès à quoi. Donc, il y avait l'équité qui était respectée. Pour ce qui est du niveau d'énergie, pour diminuer la fatigue ou encore pour augmenter les niveaux d'énergie, avez-vous remarqué la vidéo que la compétition, c'était le soir, des grosses bottes? La compétition avait lieu à Sochi à 23 heures. Pourquoi 23 heures? C'est qu'à Sochi, là, il y a des palmiers. Il fait super chaud. Même si vous montez en altitude, la neige ne tient pas très bien. Donc, il faisait la compétition le soir, premièrement pour avoir des bonnes cotes d'équipe en Amérique du Nord, et deuxièmement, parce que sinon, la neige ne tenait pas. Et pour le camp d'entraînement des athlètes, juste avant Sochi, ils sont allés à Tignes, en France. Et alors que toutes les autres équipes de tous les autres pays descendaient du glacier, les Canadiennes montaient. À 2 heures de l'après-midi, alors que tout le monde finissait la journée, les Canadiennes montaient. Tous les autres pays regardaient le Canada en disant « ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'ils font là? » Puis les coachs obligeaient les filles à se coucher à 3 heures du matin. Ils les appelaient dans leur chambre de « tu dors pas, là, hein? » pour mettre leur horloge biologique à Sochi. Le corollaire de ça en milieu de travail, c'est qu'il faut prendre ses soirées, ses week-ends et ses vacances. En Europe, vous avez à peu près tout le temps 5 semaines de vacances, est-ce que je ne me trompe pas? Au Québec, on a le droit à 2. OK? Le gros bateau Exxon Valdez, le pétrolier qui a échoué en Alaska, qui a fait de la pollution incroyable, puis Tchernobyl, la centrale nucléaire en Ukraine, pourquoi il y a eu ces deux accidents-là? C'est que les gens n'avaient pas assez dormi. Donc, si c'est bon pour des athlètes olympiques, c'est bon pour vous, il faut moduler votre niveau d'énergie. Dans une année pré-olympique, un des grands soucis des athlètes, c'est est-ce que je vais être choisi dans l'équipe olympique? Ça met tellement de pression que des fois, ils perdent de vue les raisons qui les animent. C'est de se reconnecter. Quand j'étais jeune, j'ai commencé ce sport-là parce que j'aimais ça. C'est le fun d'être un athlète. L'autre élément que je vous ai dit, vous avez ici les trois sœurs. Vous avez Justine, Maxime et Chloé, les trois sœurs. Puis là, vous avez Audrey Robichaud, qui n'est pas une des trois sœurs. Qu'est-ce que vous pensez que les médias faisaient quand ils voyaient les quatre athlètes? Ils allaient voir les trois sœurs, les trois sœurs. Puis ils parlaient de combien de fois dans l'histoire des Olympiques trois sœurs étaient allées. Les coachs, instantanément, on dit « Attendez, vous n'allez pas faire ça. » Avant d'avoir un nom de famille, les filles ont un prénom. Regardez leur manteau, les quatre sont dans l'équipe canadienne. Pas trois, les quatre. Avant d'avoir un nom de famille, ils ont un prénom. Ils faisaient des dîners d'équipe et des rencontres pour que Audrey ne se sente pas à l'écart. Puis aux Olympiques, il y a souvent des athlètes de réserve qui se rendent au cas qu'une personne se blesse gravement pour remplacer. L'athlète de réserve était aussi inclus. Il n'y avait pas de second citoyen. Vous voyez sur leur dossard les résultats qu'ils avaient sur la Coupe du monde juste avant les Jeux olympiques. On aurait été supposé faire 2, 3, 5 et 30. On a fait 1, 2, 8 et 10. Le Canada, on aurait été supposé avoir 3 athlètes, mais on est tellement bon qu'on a eu un spot supplémentaire. On a eu 4 athlètes. On est le seul pays qui a envoyé les 4 filles en finale. Et on a 2 sœurs sur le podium. Donc, quand je suis en business, je présente en sport. Puis quand je suis en sport, je présente en business parce que les gens intègrent mieux le discours. Le meilleur moyen de ne pas gagner une médaille olympique, c'est d'en vouloir une. Le meilleur moyen de ne pas faire de l'argent, c'est de vouloir faire de l'argent. L'argent, c'est une conséquence d'être utile ou de faire ce qu'on le fait de mieux. Ce n'est pas le but recherché. Et si c'est votre but recherché, vous n'allez pas l'atteindre, vous allez moins l'atteindre. C'est ce qui complète ce que je voulais vous présenter. On est dans les temps, Laurent? On est correct?
Parfaitement.
Fait que je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Jacques. On va prendre une petite pause, mais en tout cas, je voulais déjà te dire que c'est super parce que tu nous a pas présenté énormément de chiffres, mais on sent bien que derrière tout ce que tu as dit, il y a des analyses très rigoureuses, chiffrées dans tous les sens. Et voilà, moi je pense que ça pour moi, ça confirme véritablement ce que je ressens, c'est qu'il y a des fondements très solides aux entreprises libérées, qu'on est encore qu'au début de comprendre comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ta contribution en ce qui me concerne est tout à fait éclairante. Merci beaucoup.
Merci.
On va prendre une pause et puis on va discuter de tout cela et on va approfondir, on va titiller notre ami Jacques dans tous les sens pour voir ce qu'il peut encore nous donner au-delà de tout cela. Merci beaucoup, Jacques.
Ça fait plaisir.